On va essayer de régler ça tout de suite. Vendredi soir, il va y avoir un combat de lutte. En fait, c'est un gala. C'est le gala Lutton contre la faim. C'est organisé par Boulevard 101, la NSPW, Matériaux d'aide, puis la Bouchée généreuse qui embarque dans la danse, puisque tous les fonds recueillis vont aller à la Bouchée généreuse. Ce sera plusieurs milliers de dollars, ça je peux vous le confirmer. J'ai pas le chiffre exact là, du montant total vendredi soir qui va vous être annoncé, mais je vous promets tout un gala. J'ai vu que Steven Sullivan avait commencé ses achats.
J'appelle ça une liste d'épicerie pour te battre.
Il a acheté un marteau.
Oui.
Il a acheté un 2x4. Merci au caméraman qui a interdit à Steven Sullivan d'acheter la canne à gaz.
Il a dit, hey, c'est un peu excessif, ceci.
La vidéo est disponible sur la page Facebook de Boulevard. Vous pouvez aller voir ça. Je pense que c'est de l'intimidation, Denis.
Écoute, je pensais pas que Steven allait manquer de confiance au point d'aller chercher du matériel.
Moi, ça me surprend.
Mais peut-être qu'il a entendu dire que tu t'entraînais. Peut-être que, tu sais, à l'approche d'un combat, on vient nerveux un peu.
Tous les jours, je m'entraîne. Ouais. Tous les jours, je fais de la visualisation positive. Tous les jours, je regarde des vieux combats de lutte des années 80.
Oh yes, OK. Tu t'inspires de qui? Le Macho Man, Hulk Hogan?
Eddie Creechman.
C'est parce qu'il fait des promos, Eddie Creechman. Il lutte pas.
Oui, mais il est intimidant.
Ah oui? Ces gars, c'est des gros!
Exact. Mais non, je regarde comment ça se passe. Puis bref, pour ceux qui n'ont pas encore leur billet, il reste de la place, les amis. C'est des places debout, de ce que je comprends.
Hey, on remplit, là. Tout l'argent s'en va à Boucher généreuse. Là. Fait que ça serait le fun d'envoyer le chèque maximum.
C'est 20 piastres.
Ouais. Oui. Tous les animateurs de la station vont être là. Ils vont avoir un band. On a un band aussi, Big Muff, qui va être là toute la soirée. Puis va avoir un service de bar parce que Denis voulait pas se présenter s'il n'y avait pas de service de bar.
Je peux comprendre.
En fait, je pense que la lutte et service de bar, c'est un bon alliage. C'est une alliance naturelle.
Ben, juste pour passer le fait qu'on va voir Yann en bobette. Là.
Non, il n'y aura pas de bobette.
Non?
Non, j'ai...
T'as refusé?
J'ai laissé les filles choisir mon costume.
Uh-huh.
À 95%, ça a été accepté.
OK.
Mais je trouve que le costume de bain moulecouille, c'est peut-être un peu trop pour moi.
Et pourtant, t'avais dit que si nous le faisions, nous avions... Tous les droits et les auditeurs qui ont commandité ont accepté tous les droits.
Les filles ont eu du fun en passant. La vidéo est disponible sur nos réseaux sociaux.
C'est parce que le problème, c'est que, bon, là, on donne nos trucs, là, mais c'est juste que je savais que de magasiner mes bobettes, ça allait être comme un poids supplémentaire dans la balance pour y aller.
Oui! OK, c'était l'incitatif.
Fait que là,
on s'est fait manipuler, donc.
Exact. Ah. Il a acheté tout le reste, puis bref, je vais mettre ça vendredi soir. Le costume est beau, Denis.
Ouais.
Sérieusement, t'es satisfait super beau. Ou c'est too much?
C'est juste que je vais avoir un genre de culotte courte noire.
Tu l'as essayé?
Oui, je l'ai essayé.
Est-ce que ta blonde t'a demandé de le garder toute la fin de semaine?
Non, mais tu sais quoi? Ça a été très particulier parce que je l'ai essayé avec Audrey Pinchot.
Oui, elle m'a dit ça.
Oui, oui.
Elle m'a parlé de son niveau d'aisance. Tu sais, tu dis, à un moment donné...
J'ai demandé de sortir de la pièce parce que moi, je suis pas un porteur de bobettes. Fait que j'ai dit, il faut que tu sortes de la pièce. Après ça, tu rentreras. Fait que j'ai pris les bobettes, j'ai mis les bobettes. Puis là, elle est rentrée.
Ouais. Elle était pas à l'aise.
Non, elle était pas à l'aise.
Je comprends pas pourquoi elle a pas refusé comme moi.
Elle est encore moins à l'aise quand j'ai dit, prends-donc une photo de moi en bobette.
C'est beaucoup. Oui. Je pense que ça mérite une plainte aux ressources humaines.
Tout le monde s'en est sorti sans séquelles permanentes. C'est ça qui est important. Puis j'espère que vendredi soir, ça va être la même chose.
C'est ça. Donc, c'est 7 combats hyper professionnels. Je vous le dis, si vous avez jamais vu la NSPW en spectacle, vous allez être agréablement surpris. C'est des gens hyper talentueux.
Top niveau.
Des acrobates, des gens qui sont là pour les bonnes raisons. Puis ils veulent vous donner tout un show ce soir-là. Donc, venez nous rejoindre. On va célébrer ça en gang, puis on va faire manger des familles de la région qui en ont grandement besoin. Nouvelle assez spéciale ce matin, là, j'ai pogné ça, je pense qu'il était autour de 8 heures, le grand boss de Northvolt qui annonce des coupures de poste, 1600 jobs qui mettent de côté dans l'espoir de se refinancer, d'être capable de finir les contrats qu'ils voulaient faire. Et pour Québec, bon, on nous dit, pour la province de Québec, on nous dit que le projet va toujours avoir lieu. À savoir s'il va avoir un petit peu de retard, ça, c'est ce qui nous reste à déterminer. Mais, tu sais, j'ai regardé les articles en fin de semaine de Fitzgibbon, qui est responsable de Northvolt puis de l'argent qu'on leur a donné. T'sais. En fin de semaine, on avait Fitzgibbon qui dit qu'il a quitté la politique par amour pour sa conjointe.
C'est une belle histoire, là.
Et t'as Northvolt qui annonce couper 1600 jobs.
Plus ça va, plus il y a de l'air d'un gars qui est parti au bon moment.
Oui, hein? Ben, c'est ce que c'est-tu ce que je t'avais dit?
Ouais.
J'ai dit, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il quitte parce qu'il y a de très mauvaises nouvelles qui vont arriver. Puis là, ben, ça fait peut-être partie de ça.
Il y a un chroniqueur économique suédois en fin de semaine qui, lui, est persuadé que l'usine à Québec, ça se fera juste pas, là. Un gars qui est au fait de la situation de Northvolt plus que toi et moi, vraisemblablement, là, qui dit tu perds des contrats importants parce que tu n'es pas capable de livrer le matériel, puis après ça, tu coupes des milliers d'emplois, tu n'es pas dans un objectif d'expansion, puis tu ne seras pas capable d'y arriver. C'est pas rassurant nécessairement comme nouvelle puis comme perspective.
La Caisse de dépôt et de placement a mis 200 millions de dollars pour racheter cette entreprise-là,
ouais,
pour prendre des parts dans cette entreprise-là. Puis là, on se rend compte que l'entreprise ne va même vraiment pas bien. Ouais. Est-ce que ça vous surprend?
Est-ce que ça pourrait devenir le plus grand fiasco québécois au niveau de l'investissement économique? Souhaitons que non, là.
Je suis tellement tanné, Denis. On est capable du meilleur au Québec comme du pire. Puis, tu sais, les PME québécoises, là, c'est des entreprises privées, les PME québécoises représentent le poumon du Québec. Puis t'as des Pierre Fitzgibbon qui, lui, continue d'encourager des entreprises de l'extérieur à coups de milliards pour dire « Venez chez nous, on va vous donner des blocs de ci, on va vous donner des blocs de ça, vous allez avoir des avantages concurrentiels sur les autres », puis ça se transforme tout le temps en fiasco monumental. Ces entreprises-là rient carrément de nous autres parce qu'ils connaissent un peu notre modèle, puis les PME québécoises qui auraient des fois besoin d'aide, une petite poussée dans le dos pour aller faire un tour aux États-Unis ou pour exporter en Europe, ils n'ont pas accès à cette aide-là.
Tu sais, sans les subventions, l'industrie du jeu vidéo serait pas venue s'installer au Québec, serait pas venue s'installer à Québec. Ces studios-là ont bâti des succès. Pour la plupart, ils sont encore dans Saint-Roch. Est-ce qu'ils y seront encore dans 5 ans? On a développé énormément de talents ici. On en a fait venir aussi. C'est pas juste des gages d'insuccès, mais on revient toujours à la même question de base. Est-ce que c'est la job du gouvernement de jouer au dragon avec l'argent de nos portefeuilles alors qu'on a des systèmes qui ont de la misère à rouler puis qui auraient peut-être besoin de plus de financement? Je voyais des gens en fin de semaine qui comptaient l'investissement donné à Northvolt, puis eux autres se demandaient combien d'écoles tu rénoves puis combien d'écoles tu bâtis avec ça. Il y en a qui vont dire qu'on ne doit pas faire de comparaison. Mais la comparaison se fait quand même. Puis tu peux te poser la question pour les routes, tu peux te poser la question pour un paquet de projets, un paquet d'infrastructures. Quand tu gambles l'argent des Québécois, tu vas gagner des fois. Mais quand tu vas perdre, ça va faire mal à tout le monde. Et si Pierre Fitzgibbon... Bon, c'est un économiste, hein, M. Fitzgibbon. Il nous a dit qu'il était parti par amour à 30 %. Ça laisse un 70 %, je me suis sauvé du fiasco de Northvolt, ça.
Écoute, Québec-Ottawa, on a mis 2,7, puis pour la construction là, de la méga-usine, on voulait mettre 4,6 milliards de dollars. Ça, c'est sans compter le 200 millions qu'on a donné à Northvolt pour avoir des actions sur la compagnie.
Rendu là, souhaitons que ça marche, parce que j'haïrai jamais assez personnellement des gouvernements pour souhaiter notre échec collectif. Souhaitons que ça marche, notre argent est dedans. Rendu là, on n'a plus notre mot à dire. T'sais. Puis je pense pas qu'on ait besoin du succès ou de l'insuccès de Northvolt pour sortir un gouvernement quand ça fera pas notre affaire. Rendu là, c'est notre gamble collectif. J'espère qu'ils vont se relever, mais c'est mal parti.
En fin de semaine, j'essaie de reprendre le retard que j'avais pris là, jeudi, vendredi dernier dans l'actualité parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient.
Ouais.
Je suis tombé sur le protecteur du citoyen qui a rendu public son rapport annuel qui déborde d'exemples qui sont épouvantables.
C'est terrible.
C'est des exemples qui sont déshumanisants pour certains. Puis c'est M. Dowd, hein, c'est un avocat, là, c'est Maître Marc-André Dowd, qui est là depuis déjà peut-être, à ce qu'on m'a dit, 2 ans, qui fait un excellent travail. Lui, il a mis en lumière le cas d'un homme qui était en fin de vie. Le gars était à la maison, donc il bénéficiait du soutien à domicile.
Oui.
Et bon, il y a toute une analyse à faire. Ma conjointe est là-dedans, est infirmière clinicienne. Puis il y a toute une analyse à faire avec ces gens-là pour évaluer les besoins de ces gens-là. Fait que besoin d'un préposé aux bénéficiaires, besoin d'un infirmier ou d'une infirmière. Il peut-tu se déplacer pour les médecins?
Y a-t-il besoin d'être lavé? Comment est-ce qu'on lui donne ses traitements?
Exact, exact. Donc, il recevait du soutien à domicile. Et il était magané, le monsieur.
Puis il était seul.
Mais il partageait sa vie avec un chat.
Mm.
Et dans le service de soutien à domicile, on n'avait pas jugé bon de lui permettre de faire remplacer la litière pour qu'il puisse garder son chat.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que ça a donné, tu penses?
Ben,
monsieur a tout simplement demandé de l'aide médicale.
C'est sûr, c'était sa raison de vivre, c'était la seule chose qui y restait. C'est fou comment est-ce qu'on a laissé tomber ça en deux cracks. C'est la déshumanisation, je trouve, du système.
Il y en a qui vont trouver ça niaiseux, mais n'importe qui a le cœur à la bonne place va se dire, si on se paye des soins de santé, mais qu'on se paye pas l'humanité qui devrait venir avec, ben on paye pour rien. Là. Puis c'est la situation actuelle. Si nous autres, quand on va être vieux, ça va être l'enfer. Puis, mais c'est un reflet de la société. Tu sais, je lisais les exemples parce qu'il y en a plusieurs. Puis le monsieur dénonce de façon globale le manque d'humanité. Quand vous passez à l'épicerie puis que vous voyez les commis de trois caisses se raconter le House of Dragons la veille puis qu'ils regardent même pas ce qui se
calme. C'est rendu que ça.
Ben, êtes-vous surpris que dans un CHSLD, à l'heure du repas, les commis se contre-Saint-Ciboirisent des petits vieux puis qui parlent entre eux autres de la game de hockey de la veille avec la TV dans le tapis? T'sais, c'est un exemple qui est mentionné là-dedans. C'est un manque d'humanité collectif, des gens qui se regardent le nombril puis qui ne voient plus l'humain que comme du bétail ou comme des arbres ou comme du paysage autour, tu sais. Puis c'est triste. Il n'y a personne qui veut finir sa vie de même. Là.
Pourquoi est-ce qu'on s'est rendu là? C'est encore une sorte des réseaux sociaux où l'écran nous a créé une distance puis un genre d'analyse directe. Puis le monsieur, je veux dire, si vous voulez parler de finances, vous voulez juste parler d'économie, là, on va l'être sans cœur. Ça a coûté quoi, l'aide médicale à mourir pour cet homme-là versus à peut-être avoir de la litière pour le chat?
Ouais.
Ça coûte cher, l'aide médicale à mourir. On va en parler, t'as raison.
Mais... Je pense que c'est le travail à la chaîne. Puis bien souvent, pendant la pandémie, je suis allé faire du bénévolat, moi, dans les foyers de personnes âgées. Puis bien souvent, j'entendais le directeur général dire « Hey, vous travaillez avec des humains, vous ne travaillez pas avec des robots. Hey, vous travaillez avec des humains, vous ne travaillez pas avec des robots. » Le travail à la chaîne, là, à un moment donné, tu ne te rends plus compte de ce que tu fais.
C'est parce que le système de santé leur demande d'aller plus vite. Le système
non,
de
parce
santé
que ça devient
de faire plus de
une routine,
temps.
Comme
ça
comme
devient
n'importe
un automatisme. Ça devient un automatisme. Tu ne te rends plus compte de ce que tu fais. Puis des fois, tu peux agir par automatisme et par mimétisme pendant 8 heures. Tu finis ta journée, puis quelqu'un te dit « Hey, t'as-tu fait telle affaire? » Tu le sais pas, mais
c'est
tu l'as fait.
C'est quoi la différence avec avant dans ce cas-ci? Parce que c'est super intéressant ton point. C'est Moi, je le mets dans la balance des hypothèses, mais j'ajouterais peut-être à ça aussi le fait où c'est devenu tout va plus vite, beaucoup plus de rendement, beaucoup plus de tâches, pénurie de main-d'œuvre.
Moins de personnel, plus de personnes âgées, plus de détresse.
Un peu exténué, puis overwhelmed, pour utiliser un terme anglais de tout ça.
Mais ça m'avait marqué d'entendre le directeur général dire vous travaillez avec des êtres humains, vous ne travaillez pas avec des robots. Je me disais, mais Chris, ils ne travaillent pas avec des attardés, là, si. Je veux dire, les employés, ils le savent, ils travaillent avec des êtres humains. Mais s'ils le disaient, c'est parce qu'ils se disaient faut que je le dise au minimum 2-3 fois par jour.
J'ai pas travaillé longtemps, mais j'ai travaillé quelques semaines au McDo, puis c'est une phrase que t'entendais souvent, tu sais. Mais quand ton chiffre, c'est de piler des boulettes, puis de faire des frites, puis de piler des boulettes, puis de faire des frites, à un moment donné, les humains, t'y vois juste plus. C'est du travail à la chaîne, c'est du fast-food. Ça, la restauration rapide, c'est comme ça depuis que le monde est monde, ou à peu près. Mais quand tu parles de soins de santé qui deviennent comme des soins de fast-food, c'est là qu'on a un problème.
Donc, dans le cas du personnel dans un CHSLD qui distribuait la nourriture puis qui ne regardait pas les résidents, ils se parlaient entre eux, la télévision était dans le fond, comme tu l'as mentionné. On mentionnait qu'il y avait déjà eu un guide qui avait été produit à cet effet-là par le ministère de la Santé publique qui disait que le personnel doit centrer sa communication et diriger son attention sur le résident et se positionner de façon à faciliter le contact visuel. Il dit « Un tel manque de communication, d'attention et d'égard envers le résident du CHSLD est un exemple de déshumanisation des soins. »
C'est parce que rendu là, on est aussi bien de demander à des robots qui chantent des petites chansons d'aller porter à la bouffe. Là. Puis, veut pas, l'intelligence artificielle puis l'intelligence robotique, c'est peut-être ce qui va sauver notre génération parce qu'on va être énormément de personnes âgées. Ils vont manquer de personnel humain. Mais même quand, tu sais, je veux dire, là, on est rendu avec du personnel humain qui fait les tâches comme des robots. Fait que rendu là, je vais faire peur à ma collègue Audrey Pinchot, mais nous autres, ça va être des robots là, qui vont s'occuper de nous autres, qui vont nous torcher.
Mais on va être au même point dans la déshumanisation des soins parce que ça change quand même la donne que ce soit quelqu'un avec une humanité qui le fait. Fait qu'on l'a perdu. Si on s'en va, au moins, on va se faire changer nos couches.
Ouais.
C'est le premier point. Il y aura assez de personnel, soit de robots, pour le faire peut-être.
Encore là, c'est ça coûte cher des robots, qu'on me dit.
Ça coûte très cher. L'État, je ne suis pas sûr que... J'espère qu'on n'a plus d'argent là, pour ce mandat-là. C'est ça que la CAQ nous répète.
C'était pas lui qui avait fait. C'était pas lui qui avait fait ce rapport-là, mais je me souviens, il y a ça peut-être 4-5 ans, on était dans notre ancienne vie radio. Il y a un homme qui s'était plaint parce qu'il y avait deux préposés aux bénéficiaires qui s'ostinaient à savoir s'il allait changer sa couche parce que la ligne n'était pas tout à fait visible. Wow. Quand la couche est pleine,
comme pour un enfant,
ben, il y a comme quelque chose qui apparaît, de ce que je comprends. Mm. Et là, les deux personnes étaient en train de s'ostiner à savoir s'ils allaient changer la couche.
Dans le doute, change-là.
Parce qu'il y en a une qui disait « Non, c'est correct », puis l'autre disait « Non, non, c'est pas correct ».
J'espère que c'est pas le coût des couches qui fait en sorte que tu dois pas en utiliser plus, puis que là, on est rendu avec un ratio, puis tu restes dans ton...
Ben, tu mets le doigt sur un point. Effectivement, dans ce dossier-là, il y avait des gens qui nous avaient écrit à la station pour dire « Oui, c'est compté ».
C'est pas vrai, je me trouvais démagogue dans mon commentaire.
Ah, mais il y a du monde. Écoute, il y a des rapports au fil des années qui ont fait état de gens qui dormaient littéralement dans leurs pisses puis dans leurs excréments pendant des jours et des jours puis qui n'étaient pas changés pour des soucis d'économie.
D'économie, de pénurie de main-d'œuvre, je pensais d'avoir et avoir. Mais j'ai de la. Ça vous fait-tu peur?
Beaucoup.
Parce que là, vous êtes... T'sais, Yannick, ça
moi, depuis
ça
que l'aide médicale à mourir est là, ça me fait un peu moins peur. Ouais, mais un jour, je vais chier dans ma couche.
Ciao, bye!
Ouais, tu peux pas choisir ça.
Ciao, bye!
Yannick, il y a des conditions à remplir, là. C'est pas parce que tu te mets à être...
Je me trouverais bien quelque chose.
Mais... On n'aura pas un guichet des jardins, nous autres, pour ça, là, à un moment donné, quand on va être rendu assez vieux. Là.
Mais
on
vous avez...
60 ans que le Canadien n'a pas gagné la Coupe Stanley, je décolle.
La seule fois où ça va te servir, Yannick, de pas avoir tes parents très près, je pense, là, maintenant, dans tes circonstances, c'est de pas trop réfléchir à ce que tu vas faire pour la suite des choses. Mais Denis, bien avant toi, il va avoir tes parents qui t'ont aidé toute ta vie.
Écoute, je suis chanceux présentement parce que j'ai des parents qui sont encore ultra autonomes, qui sont en très bonne santé.
Le jour où? Tu réfléchis-tu? En parlez-vous?
Bien, mes parents sont très... mes parents, c'est particulier depuis qu'ils ont 12-13 ans, qu'ils sont ensemble, premièrement. Puis depuis 12-13 ans, ils sont pas mal laissés à eux-mêmes et ils s'occupent pas mal d'eux autres.
Ils sont très autonomes.
Fait que j'ai l'impression que quand ils vont avoir des shots à caler, et c'est peut-être malheureux, mais j'ai l'impression que moi puis ma sœur, on va comme être écartés de la discussion. On va nous dire... C'est quoi la décision qu'ils ont prise? Puis on va peut-être s'ostiner, on va peut-être pleurer, mais je pense qu'ultimement, il va falloir vivre avec.
Je sais pas si c'est des parents qui demandent à leurs enfants cette aide-là. 88-971-1021. Hey, si je suis plus vieux, puis vous voyez que je suis dans un état de décrépitude, puis on s'occupe pas bien de moi, est-ce que vous allez pouvoir être là? Ouais. Ou encore des maisons bigénérationnelles?
Ben,
ou
je
encore...
l'ai demandé à mes enfants, moi. Ils m'ont dit non. M'ont dit non, et deux.
Mais tu sais, on est des pères de famille. Là.
La fierté aussi pour ces gens-là.
Ben, on est des pères de famille, on veut pas être des boulets pour nos enfants.
Non, absolument.
Des, même des mères de famille, je pense. Mais la fierté, c'est ça, elle rentre en ligne de compte. Sauf que tu veux-tu vraiment être dans tes excréments ou te ramasser à te faire changer par des robots puis avoir
on va
de
tout
vie.
Faire pour pas se rendre là. Ouais. Hey, autre exemple qui a été donné par le Protecteur du citoyen, on parle d'un homme qui est hospitalisé dans une unité de gériatrie qui est fréquemment attaché à son fauteuil pendant de longues périodes avec vue sur un mur. Fait que lui, là, il est dans son fauteuil roulant, puis il regarde un mur et il est attaché là. Il y a une médication antipsychotique qui lui est donnée qui ne devait pas lui être administrée s'il n'y avait pas d'agitation ou encore... pas d'hallucination, mais le personnel en place lui donnait le médicament antipsychotique parce qu'il ne voulait pas recevoir de propos déplacés de la part de l'individu.
Dérange pas. Quand on lui donne son médicament, il ne dérange pas. C'est comme un meuble. On n'a pas à s'occuper de lui.
C'est comme fun, avec des enfants, je m'excuse, mais pour certains troubles.
Ouf. On s'en va pas du bon bord. On s'en va juste pas du bon bord. On n'est pas capable de prendre soin de nos vieux. On n'est pas capable de prendre soin de nos enfants à l'école, puis on n'est pas capable de prendre soin de nos vieux. Quel genre de société on a présentement?
Et juste, ça, c'est au niveau des valeurs. Mais au niveau démographique, on va se retrouver dans une situation où déjà qu'on a le sens des valeurs un peu croche, bien là, ça va être l'excuse du « on n'a pas le choix, de, on ne peut pas faire autrement » parce qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui travaillent versus les gens qui ne travaillent plus puis qui ont besoin d'aide puis qui ont besoin de soins. Puis il va falloir regarder les autres alternatives. Peut-être qu'au Québec, on va se retrouver comme en Italie, où justement, les grands-parents viennent rester avec la famille pour que tout le monde puisse donner un coup de main puis que tout le monde puisse s'entraider. L'alternative, je la vois pas, parce que d'un côté, on contrôle notre immigration, puis il y en a qui vont dire que c'est une bonne chose. De l'autre, on fait pas plus d'enfants, ou si peu, pas plus qu'avant, qu'on n'est pas capable de faire le renouveau juste nous autres en copulant, tu sais. Fait que le résultat, c'est que tu as une masse de gens qui vont vieillir, qui vont avoir besoin de soins, qui vont être la majorité de la population. Il y en a qui appellent ça le péril blanc ou le péril bleu depuis des années. Puis c'est entre 2030 et 2040 qu'on va franchir le point de non-retour à ce niveau-là. Plus de gens qui ont besoin de soins que de gens actifs qui n'en ont pas besoin. Déjà, on a des gens qui commencent à tourner les coins ronds. Déjà, on manque d'humanité dans le système. Imagine-toi quand on n'aura pas le choix. Imagine-toi quand on n'aura plus le choix.
Puis on manque de monde, puis pensons-y, on ne pourra pas arrêter de travailler d'un matin pour se consacrer à notre famille comme on voyait auparavant, là, peu importe le sexe de la personne. On est dans une période où l'inflation est extrêmement difficile. Les finances de nos gouvernements, peu importe le palier, sont dans le rouge, puis mal gérées, si vous me permettez un commentaire politique. On n'est pas dans la possibilité de revoir notre façon de s'occuper.
Puis ça, c'est de la philosophie à deux scènes, mais en même temps, on dit qu'on réagit comme nos gouvernements, on dit qu'on est pogné à la gorge, puis qu'on peut pas, mais on est abonné à Netflix, puis à Disney+, puis on a tout un plan cellulaire, puis on a tous deux chars dans l'entrée, puis tu sais, il y a des choix qui vont être difficiles à un moment donné à faire, puis le rythme de vie qu'on s'impose ou qu'on s'oblige à avoir, ben c'est peut-être ça, à un moment donné, qui va devoir écoper parce qu'il va falloir prendre soin de nos aînés puis de nos plus vieux parce que le système de santé déborde déjà et craque déjà de partout. Il n'y aura pas assez de CHSLD pour prendre en charge tous ces gens-là. C'est impossible. Impossible.
Autre sujet, les amis. Là, j'espère qu'on ne sera pas tous d'accord. Ça commence à être plate, ce show-là.
En désaccord face au dernier sujet.
Je peux te dire que ça
on
va bien.
Semblant,
ça va bien,
mais on serait vraiment
de santé, Yann.
Est-ce qu'on peut prendre. Est-ce que nos enfants peuvent prendre congé de l'école pour aller pratiquer leur cours de conduite à l'école de conduite?
Non.
Écoute. Je vais te dire une chose. C'est pas de tes affaires. C'est pas des affaires à Drainville. Puis c'est pas des affaires de l'école.
Ouais.
Ouais, c'est moi qui colle la shot. C'est mes enfants. Ouais. Drainville, fuck off. L'école, fuck off. C'est moi qui colle les shots. Vous déciderez pas à ma place.
Mon enfant, mon char pour Denis.
Ben, je suis d'accord avec Denis. À un moment donné,
c'est pas de vos affaires.
Si ton enfant veut avoir accès à une plus grande liberté, puis il est en région, exemple, ça passe par le véhicule. S'il veut aller au cégep à Québec, ça va y prendre un véhicule.
Je vais aller plus loin que ça.
Pour prendre les moyens pour qu'il arrive. Puis là, ben, il y a des écoles de conduite qui commencent à se dire, c'est parce que moi, j'ai pas de moniteur le soir. J'ai
il manque de monde.
La fin de semaine, mais je suis capable d'en avoir entre 8 et 5, entre 8 et 17 heures. Fait que ça va être là où je vais donner mes cours de conduite, puis les élèves vont être obligés de suivre leur cours de conduite là. Ben, tu sais quoi? C'est ça. Ça s'appelle la vie. Puis quitte à ce qu'ils soient moins malades.
Ça s'appelle la vie. C'est une pratique à la vie. Tu sais, tes notes vont bien? OK. C'est le temps que tu apprennes à conduire. Good. Si tes notes vont moins bien, le cours, il va attendre. Si tu es capable de jongler, en manquant des heures de cours, j'ai manqué des heures de cours pour faire de la radio, j'ai manqué des heures de cours pour faire du journalisme, j'ai manqué des heures de cours pour aller voir des shows, j'ai manqué des heures de cours pour acheter Division Bell de Pink Floyd.
Oui, mais là, à date, t'es pas mal au cégep puis à l'université dans ton...
J'ai manqué des cours de secondaire pour le journalisme, j'ai manqué des cours de secondaire pour Pink Floyd, mais l'idée, c'est si t'es capable de jongler avec toutes les sphères de ta vie puis d'arriver en bout de ligne, ça te regarde toi. Ça regarde tes enfants, ça regarde tes parents, ça regarde pas un ministre, puis ça regarde pas une école.
Moi, j'ai une chance que tu as nuancé, là, parce que j'allais un peu ailleurs.
Mais vas-y!
Puis par cette nuance-là, je me rappelle, moi, de voyages que c'était en pleine période d'école, organisés par l'école, puis on avait, par contre, à faire nos cours, ceux-là qu'on allait manquer
exact.
D'avance.
Mm-hmm.
Puis j'avais une facilité à l'école, fait que j'ai pu faire ça. Chose étant close, nuance étant appliquée. Pour le reste, je viens d'un foyer où il n'y a rien d'autre comme priorité que l'école.
Et ça vous regarde?
Et oui, je vais vous
dire. Ça ne me regarde pas.
Je suis d'accord avec vous sur le fait que le gouvernement ne devrait pas choisir. Je suis d'accord avec vous sur le fait que ça ne devrait pas être imposé par autre sphère que le noyau familial. Mais jamais je vais être de celle. Là, il y a pénurie de main-d'œuvre, là, mais mettons qu'on enlève la pénurie de main-d'œuvre puis on y va en général dans le sujet. Je serais vraiment de celle. L'école, c'est comme la job pour un jeune.
On se projette dans le futur.
J'avais même pas le droit de pas aller à mes cours en fin d'année quand on jouait au bingo dans la classe. Là. C'était comme, il y a une période, c'est le bingo, mais tu vas au bingo.
On se projette dans le futur. Mon plus grand, mon Joshua à moi, il va être en secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5. Mettons secondaire 4, OK?
Mm-hmm.
Là, il est sur le point d'avoir son 16 ans, commencer. Ben, ça dépend. Moi, ça a été les 5 plus belles années de ma vie, mon secondaire 3. Mais bref, il est sur le point d'entamer ses cours de conduite. Puis là, il me dit, papa, j'ai pas de disponibilité le soir, la fin de semaine pour mes cours de conduite. Faudrait que j'y aille jeudi 14h. Qu'est-ce que je dis? Je dis, Joshua, t'as un cours jeudi 14h, tu vas t'entendre avec ton professeur pour avoir la matière à la maison le soir, puis tu vas aller faire ton cours à 14h, puis le soir, tu vas faire la matière que ton professeur va te donner.
Mais c'est pas plus de job aux enseignants, la vie. Ça?
Ouais. Ben non, pas nécessairement. Les enseignants.
Parce que je comprends ta nuance, te dire que tu vas falloir que tu le fasses, fait que tu vas pas juste manquer ton cours.
Mon ancienne belle-sœur.
Moi, je suis tellement rigide là-dessus.
Mon ancienne belle-sœur, qui est la sœur de la mère de mes enfants, OK? Elle a fait l'école à la maison pendant 3 ans de temps. En une demi-journée, elle était capable de passer la matière de la semaine.
Parce qu'elle est toute seule avec ses enfants, c'est sûr. Là, t'as pas une classe de 34 avec des problèmes de comportement puis un développement qui est différent pour chacun.
Donc, à partir de ce moment-là, quand mon plus vieux sera à l'école puis il sera au secondaire, si jamais il a besoin d'aide pour, je sais pas moi, ses maths de secondaire 4, mm-hmm. ben il va appeler ma tante Pascal puis ma tante Pascal va l'aider le soir.
Ça me pique dans le cou.
J'ai juste 2 enfants, puis je suis même pas certain que je prendrais la même décision pour les 2 enfants par rapport à ça. Faut que tu regardes les besoins, faut que tu regardes la performance, faut que tu regardes un paquet de choses. Bon, mais mon point demeure le même. C'est moi qui vais coller la shot en jasant avec mes kids, mais c'est pas un ministre, puis c'est pas une école. Et si je vous... Par exemple, tu sais, mettons que j'ai un enfant qui traîne de la patte puis qui a de la misère avec son école, puis c'est important qu'il soit là tout le temps, ben ça va être ma job de lui trouver une école de conduite où il y a des cours de soir ou de lui montrer à chauffer au meilleur de mes capacités puis de le préparer pour un cours. Il y a un paquet d'alternatives.
Vos nuances sont tellement importantes là-dedans. La pénurie de main-d'œuvre, si on ne peut pas faire avec autrement que cet horaire-là de 8 à 17, vois-tu, ma rigidité devient un peu plus flexible.
C'est de même chez vous, puis c'est correct. C'est vos valeurs, puis c'est comme ça, puis c'est parfait. Moi, l'endroit où j'ai aucune ouverture, c'est que je veux que dans ta famille, vous calliez vos shots. Je veux que dans la famille à Marceau, ils collent le shot. Puis dans ma famille, c'est la même chose. Je veux pas de directive, puis je veux pas d'obligation, puis je veux pas de ci, puis je veux pas de ça. Les jeunes apprennent à vivre. Ils sont pas tous rendus à la même place. Ils ont pas tous le même niveau de facilité. Il y en a qui ont besoin d'apprendre à jongler avec un horaire, à jongler avec l'espace, le temps. Ça peut être une mosuse de belle opportunité d'apprentissage pour un paquet de jeunes. Organise ta vie, mon jeune.
Mais pour réussir à tout faire.
Mais, ben oui.
Mettons, point de vue politique, pourquoi Drainville s'embarque là-dedans puis tient à répondre à ça en disant que les manques des heures de classe pour un cours de conduite, c'est pas acceptable. L'assiduité scolaire, c'est la priorité des priorités. Et chaque heure en classe compte. Pourquoi il tient absolument à se mêler
de ça? Qu'est-ce qu'il y a
de
derrière? Moi, c'est ça, mon questionnement.
Un manque de réflexion. C'est ça qu'il y a derrière.
Le ministre?
Je pense qu'il y a un manque de réflexion, puis je pense qu'il y a un manque, et ça, on le reproche tellement souvent aux politiciens, un manque de contact avec les réalités de tous et chacun qui sont toutes différentes, toutes exigeantes. T'es pas collé sa vraie vie quand tu réponds de même, là. Puis, encore une fois, si Bernard Drainville, dans sa famille, l'assiduité scolaire, c'est la priorité numéro un, bravo, j'ai rien pour, j'ai rien contre. Ultimement, c'est pas de mes affaires. Mais ce que je fais, ou ce qu'on fait, nous autres, ma famille, mes enfants, moi, c'est pas des affaires au ministre.
Il y a
non
des
plus.
Gens qui se questionnent au texto 88-971-121 si le problème n'est pas qu'on pallie par le bas là, pour des parents qui n'ont pas de jugement nécessairement sur un horaire de cours pour leurs enfants. Fait que là, on est en train d'instaurer quelque chose.
Ça peut être intéressant pour un enfant d'apprendre que son parent n'a pas de jugement. Ça peut être une leçon de vie, ça aussi.
C'est vrai que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. C'est une couple de trucs. Là, on, dans un autre contexte de pénurie, dans un contexte
où manquer,
des parents
c'est
comme
pas manquer une session pour apprendre à chauffer un char.
Ouais, c'est beaucoup de cours. Je m'excuse, mais moi, je suis dans la génération où nous obligeons à faire le théorique puis le pratique.
C'est sur un an.
Une quinzaine d'heures sur un an?
À peu près.
Ça se gère très bien.
C'est long. Là. J'aimerais ça savoir c'est combien théorique puis pratique.
Théorique, je pense qu'il se présente même plus sur place. C'est vraiment sur ordinateur. Puis après ça, c'est sur un an. Donc, 12 mois où t'apprends à conduire.
Je pense que entre 10 et 15 heures pratiques, les chiffres sont dans le texte.
Max Larouche pourrait nous le dire. C'est juste que je pense que...
C'est pas rendu au bout.
Non.
Mais lui, il est rendu à 3 ans.
Oui, puis il a toujours pas fini son pratique.
C'est parce qu'il sait qu'il donne pas de congé pour apprendre à
ça
conduire.
Ça doit être ça.
C'est ça qui arrive.
Il veut pas manquer son après-midi à la radio. Il est là l'après-midi.
Et il est encore célibataire.
Oui. La belle vie.
Il est courageux, là. Il se débrouille, puis il fait pas suer personne. Jamais il demande un livre à quelqu'un. Si on lui propose, ça par contre, on lui donne. Le reste, on lui enlève.
Ah,
je donne tout, je l'adore.
Denis Gravel, merci, on t'écoute tantôt avec Véro et Audrey. Bye-bye.
Marceau le midi.